Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. C'est parti pour une nouvelle journée. Je suis accompagnée de Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Liselotte, bonjour à tous.
Et également Adèle Rosner. Et puis, je crois que c'est tout.
Il y aura Louis Rigaudière qui sera...
Et Louis Rigaudière que vous entendrez co-animer avec moi un entretien tout à l'heure. Pour commencer votre programme aujourd'hui, on reparle encore de Raphaël Arnaud, ce député fiché S qui s'en prend maintenant au père d'une victime du Bataclan. Nous serons donc avec Patrick Jardin dans quelques minutes. À 8h, pardon, je suis complètement déphasée ce matin. Pour votre grand entretien à 7h25, pardon, nous recevons Vincent Coussedière. On parlera de Marine Le Pen. Peut-elle être la figure providentielle que la France attend? Eh bien, j'espère que nous aurons la réponse à cette question. Débattons-en à 8h20. C'est Rémi, le fondateur de Où va ma France, que vous connaissez peut-être pour son travail, qu'il partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, fondateur de Où va ma France, qui sera avec nous. C'est cet entretien que Louis Rigaudière co-animera avec moi. Comment cartographier les mots de la France à 8h20 donc. Et puis pour l'analyse aujourd'hui, on retrouve l'abbé Mathieu Raffray et Julien Langelas exceptionnellement. Jean Messia sera là demain, pas de panique. Aujourd'hui on parle de Halloween qui dévore la Toussaint, qui défend encore nos morts à 8h57. Pour le moment, le bulletin d'actualité c'est avec Adèle Rosner.
Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui aura lieu la niche parlementaire du Rassemblement National qui est donc alors que les débats sur le budget sont en cours et comme chaque année, le groupe parlementaire de droite nationale a une journée pour déposer des propositions de loi qui seront soumises au vote du reste de l'Assemblée. On retrouvera donc 7 propositions. L'une vise les frais bancaires injustes, une autre la gratuité des parkings d'hôpitaux publics, une autre encore sur la provenance des produits alimentaires. Les deux plus importantes concernent l'immigration et visent en partie à piéger les Républicains, le rétablissement du délit de séjour irrégulier et la dénonciation des accords franco-algériens de 1968. Ce dernier point est d'ailleurs un élément central du programme migratoire des Républicains et d'Horizon. Reste maintenant à savoir s'ils voteront comme leurs collègues du Rassemblement National.
Et que va devenir Pierre Gentillet à la Sorbonne?
Eh bien, c'est une information que révélait Radio Courtoisie hier, l'avocat Pierre Gentillet sera bien maintenu dans ses fonctions de professeur à l'université de la Sorbonne, où il enseigne le droit depuis maintenant 9 ans. Il était attaqué par des étudiants d'extrême gauche qui lui reprochaient son engagement politique à la droite nationale, notamment en tant que candidat du Rassemblement National aux législatives de 2024. Des témoignages de soutien de tous bords politiques ont afflué depuis, soutenant donc Pierre Gentillet dans son travail. Dans un communiqué, l'université de la Sorbonne a ainsi assuré qu'aucune raison ne justifiait l'arrêt de ses enseignements prévus cette année universitaire, lui proposant même une protection fonctionnelle, un changement de mentalité à saluer, pour une fois. Et selon le Canard enchaîné, les travaux indispensables de sécurisation du Louvre auraient été retardés à cause, surprise, d'Emmanuel Macron et de l'Élysée. En effet, plusieurs conservateurs accusent l'Élysée d'avoir tout misé sur le projet à 1 milliard d'euros, nouvelle renaissance, ce qui aurait repoussé donc la mise aux normes de sécurité du musée. Avec ce projet, depuis 2021, Laurence Descartes, la présidente du Louvre, a consacré la majeure partie de ses crédits d'études à la création d'une nouvelle entrée du public, à l'aménagement d'une salle souterraine pour exposer la Joconde, alors même qu'elle savait très bien que les caméras et les ordinateurs de sécurité étaient vétustes. Le criminologue Alain Bauer commentait cette affaire.
C'est une affaire extraordinairement bien organisée, pensée.
Un commando, hein,
en réalité. Oui, relativement bien exécuté au début, d'une manière totalement amateur et au-delà de la stupidité dans la fuite éperdue, puis dans la tentative de départ dans un aéroport qui n'est pas le lieu le moins sécurisé du monde. Voilà, donc ce qu'on sait maintenant, c'est que la police a tenté de rattraper, grâce à l'efficacité de ses agents, ceux de l'Office central et ceux de la brigade de répression, l'incroyable incompétence, inconséquence et bêtise des administrations successives du Louvre qui a permis que ce casse soit possible. Je précise d'ailleurs que, contrairement à une idée que j'avais eue jusqu'à présent visant à considérer que l'architecture du Louvre empêchait la protection du balcon. Il semble que le balcon était protégé par une grille jusqu'à ce qu'il y a quelques années, un des conservateurs, dans un moment d'ouverture d'esprit, de volonté d'accessibilité, de démonstration, la fasse démonter. Voilà. Donc, on peut rajouter à cela une série invraisemblable et totalement hallucinante d'incompétences successives avec des gens très compétents pour ce qui est de l'exposition des bijoux et parfaitement inconséquents sur leur protection, leur préservation. Et je rappelle que dans conservateur, il y a conserver.
Voilà, comme le dit Alain Bauer et l'ensemble des analystes, il y a eu de véritables manquements, et notamment dans la gestion donc des priorités. Et puis les ostréiculteurs ont obtenu gain de cause, un arrêté leur imposé depuis juillet l'installation de lavabos et de toilettes séparées pour les hommes et pour les femmes sur les embarcations de moins de 12 mètres. Mais face à leur mobilisation, le gouvernement vient finalement d'assouplir la mesure en autorisant des dérogations à cette obligation pour permettre donc aux ostréiculteurs de ne pas modifier toute leurs installations sur leur bateau où chaque mètre est compté et puisqu'ils sont tous dédiés soit à la production, au stockage du matériel de sécurité et au poste de pilotage. Une bonne nouvelle donc.
Et vous nous parlez de sport.
Oui, l'Olympique marseillais, on parle football aujourd'hui, a été tenu en échec hier par Angers en Ligue 1 avec un match nul 2-2. Les Marseillais ratent donc l'occasion de prendre la tête de la compétition.
Et quelle sera la météo du jour, Adèle ?
Eh bien, le ciel aujourd'hui hésite entre nuages et éclaircies. Des orages éclatent sur la Corse, quelques brumes dans l'ouest, tandis que le sud profite d'un temps plus ensoleillé. Côté température, nous avons ce matin entre 6 et 17 degrés. Et dans l'après-midi, jusqu'à 13 en région parisienne et 23 en Occitanie. Et nous fêtons aujourd'hui la bienheureuse Bienvenue et la bienheureuse Dorothée.
Merci, Adèle.
Ligne droite.
Et on poursuit avec le décryptage.
Oui, on dit souvent que les chiffres parlent, mais ils ne parlent apparemment pas à tout le monde de la même façon. En tout cas, pour la gauche, tout va se jouer en fonction de ce que traduisent ces chiffres. Hier, Le Monde a sorti un article commençant ainsi « L'Observatoire de l'immigration et de la démographie, un think tank qui fabrique de la peur ». Mais pourquoi ce think tank, créé par Nicolas Pouvreau-Monty, fait-il peur au Monde et à la gauche ? Eh bien, la réponse est très simple. La réalité proposée par l'OID, donc l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, sur l'immigration ne plaît pas. L'organisme, encore inconnu il y a 2 ans, jouit d'une certaine audience dans l'espace public et s'il ne triche pas sur les chiffres, il les met au service d'une vision réaliste de l'immigration. Pour Le Monde, la phrase est plutôt « s'il ne triche pas sur les chiffres, il les met au service d'un certain discours sur l'immigration ». Mais ils le disent eux-mêmes, l'OID ne triche pas sur les chiffres. Et non content d'être fiable, eh bien ils reçoivent la reconnaissance des organismes officiels, et ça c'est dur à avaler. Parce que si l'on regarde bien, rien ne pose problème. Tous les partenaires sont diplômés et légitimes dans ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Leur seul défaut est celui d'être de droite, tour à tour proche de Jean Raspail ou du Front National, par exemple. En réalité, Nicolas Pouvreau-Monty a même réussi à s'associer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, organisme très clairement de gauche. Face à cette association dépassant l'entendement, Le Monde a interrogé Didier Léchy, le directeur donc de cet organisme, sur le parti pris idéologique de l'OID et sa réponse est des plus croustillantes. Il s'intéresse aux effets sociaux de l'immigration que les chercheurs de gauche éludent et personne ne les prend en défaut sur les données. Après cette réponse tout à fait déplaisante pour la gauche, eh bien Le Monde n'a pas pu s'empêcher de réagir en disant « une assertion partiellement vraie ». L'OID fait tout ça avec quelle stratégie ? Celle de prendre à rebours le rassurisme qui relativise l'ampleur des flux, comme aiment le faire à longueur de journée les experts de France Inter qui expliquent volontiers, je cite, « leur force de frappe est impressionnante, alors qu'à l'ICM, nous sommes un organisme de recherche, nous sommes 800 chercheurs et nous ne sommes pas audibles, c'est décourageant. » Et oui, la vérité décourage le gauchiste, c'est connu. À force de vouloir critiquer cet organisme, eh bien Le Monde en vient à remettre tous leurs propres spécialistes et organismes en question. Cet article en est la preuve. Lorsque l'on fait face au réel, les diverses méthodes habituelles de contradiction ne tiennent plus. Il faut discréditer.
Merci Adèle pour ce décryptage.
Ligne droite. Debout les Français.
Et on débute cette matinale avec Patrick Jardin. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, très bien, je vous remercie.
Merveilleux. Alors vous êtes membre de l'Ordre du Saint-Sépulcre, et surtout père de Nathalie, tué au Bataclan le 13 novembre 2015, ça fera bientôt 10 ans, auteur du livre « Pas devant les caméras », où vous revenez donc sur cette expérience de deuil qui est devenue particulièrement politique. Patrick Jardin, on vous a invité puisque donc, cela fait maintenant quasiment 10 ans que votre fille a été tuée au Bataclan, et il y a quelques jours, sur X, vous avez publié ceci. Dans moins d'un mois, cela fera 10 ans que je suis séparée de ma fille Nathalie, assassinée par des islamistes qui sont soit morts, soit incarcérés. Par contre, aucun des politiques auxquels on doit ces attentats, Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, n'ont été inquiétés alors qu'ils sont responsables. Vous trouvez cela normal? Une chose est certaine, je ne me rendrai pas à l'hommage organisé par tous ces pourris de politiques qui, à peine s'être rendus devant le Bataclan, vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours. J'irai au Bataclan comme chaque année, mais en privé. Alors bien évidemment, on vous comprend et on reviendra d'ailleurs sur la responsabilité des politiques puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais avant cela, évidemment, la réaction de Raphaël Arnaud. Chers auditeurs, vous le connaissez, Raphaël Arnaud qui est donc député, qui est aussi fiché S, ancien leader du mouvement antifasciste La Jeune Garde, et qui donc a réagi en insultant Patrick Jardin et en expliquant que c'était un fasciste qui œuvrait à la montée du racisme islamophobe. Patrick Jardin, est-ce que vous pourriez donc nous expliquer comment est-ce que cette affaire est montée et partie donc de ce tweet il y a quelques jours maintenant ?
Ben, vous l'expliquez, ça va être compliqué parce que je ne le sais pas moi-même. En fait, moi j'ai reçu un mail d'Éric Zemmour qui m'a indiqué que sur mon compte Twitter, ça défilait parce que ce fameux luberlu de Raphaël Arnaud m'avait insulté. Je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à moi. Je sais que c'est un député LFI, mais on a des opinions politiques différentes et ça c'est normal. Je trouve ça tout à fait sain et normal qu'on ait chacun ses opinions, mais je ne me permettrai pas, moi, de l'insulter. Je ne sais pas pourquoi il a éprouvé ce besoin. Maintenant, me dire que je suis fasciste, moi j'ai l'habitude, puisque à partir du moment où on est de droite, on est facho. Pour le reste, j'ai confié ça à mon avocat qui jugera utile de donner une suite judiciaire à cette affaire.
Alors, vous avez quand même estimé que ça méritait d'être attaqué en justice. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de donner suite ? Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de personnes à votre place qui se seraient dit « bon bah, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est comme ça, tout le monde s'insulte ». Là, il y a quand même une importance à faire ça, Patrick Jardin.
Oui, si vous voulez, moi, à partir du moment où on m'insulte, j'ai décidé déjà depuis un moment de ne plus jamais rien laisser passer. Donc, alors, a fortiori, par un type aussi nauséabond que ce Raphaël Arnaud, j'ai décidé de ne pas laisser passer. Donc, je ne sais pas si mon avocat jugera utile de donner une suite judiciaire. D'après ce qu'il m'a dit, il va rédiger une assignation. Donc, c'est la justice qui tranchera.
Vous avez reçu le soutien d'Éric Zemmour, mais aussi de députés du Rassemblement national. Preuve que votre figure, encore une fois, au-delà d'être celle d'un père endeuillé, est devenue politique. Parce que là encore, vous pourriez rappeler aux auditeurs pourquoi, puisque en fait, vous êtes surtout le symbole d'une parole qui s'est libérée après ces attentats du Bataclan.
Oui, si vous voulez, Éric, elle a à l'avantage de dire la vérité, et il s'en tient, si vous voulez, il ne joue pas sur les mots. Donc, il n'est pas des idées politiques qui sont proches des miennes. Ça a été un des rares à me soutenir après ce qui m'est arrivé, encore que je me souviens qu'à l'époque, Marine Le Pen m'avait reçu lors d'un meeting qu'elle avait fait à Lille, et elle était en pleurs suite à ce qui m'était arrivé. Mais alors vous soulignez que Éric Zemmour m'a soutenu, oui, mais si vous saviez le nombre de milliers de tweets de soutien que j'ai reçus sur X, par rapport à ces quelques fachos de gauche, je dirais, qui eux m'insultent, ça prouve que je suis quand même dans la vérité, quoi.
Il y a Raphaël Arnaud qui s'est enfoncé hein, dans son vocabulaire sous ses tweets, puisque après les réactions, donc notamment d'Éric Zemmour, il a expliqué que il est donc suprémaciste religieux ou nationaliste, on va tous vous dézinguer. Alors là encore, on s'enfonce toujours plus dans l'ignoble avec Raphaël Arnaud. Il ne s'arrête jamais.
Non, ben c'est peut-être pour ça qu'il est trois fois fiché S. Hein. C'est un a priori, moi je ne le connaissais pas, mais j'étais sur Wikipédia, j'ai regardé sa fiche. C'est pas très reluisant, c'est un triste personnage. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a encore des électeurs en France qui votent pour des gens comme ça, qui prêchent en fait la haine. Je comprends pas, franchement, ce type mérite pas d'être à l'Assemblée nationale et je sais pas si la présidente de l'Assemblée nationale prendra des mesures contre lui, mais j'estime que ça ferait partie de ses devoirs.
Ce que vous reproche Raphaël Arnaud, quand on creuse un peu, c'est d'avoir de la haine pour les responsables de la mort de votre fille et donc plus largement toutes les victimes de l'islamisme en France. Et vous vous défendez vous défendez le droit d'avoir cette haine envers ceux qui ont tué d'une certaine façon, en tout cas qui sont responsables de la mort de votre fille. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Vous savez, ne pas avoir de haine lorsqu'on a tué votre enfant, c'est un peu de l'inconscience, quoi. Alors, Raphaël Arnaud, d'après ce que j'ai vu, n'a pas d'enfant. Peut-être que le jour où il en aura, si jamais il lui arrive la même chose, il changera d'avis. Moi, j'ai la haine, effectivement, des islamistes qui ont fait ces attentats, et pas seulement pour ma fille, hein, mais pour toutes les autres personnes qui ont été tuées, et les 485 blessés que je n'oublie pas, parce qu'il y en a qui seront marqués à vie et qui resteront infirmes à vie. Donc ça, je n'oublie pas. Et j'ai la haine également, donc comme je vous le disais tout à l'heure dans mon tweet, pour tous ces politiques qui n'ont rien fait. Et j'ai encore en souvenir, lorsque je suis allé au procès, dit le procès du siècle, qui pour moi a été plutôt une mascarade du siècle, le souvenir du président Hollande et de M. Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui, lui, nous ont dit carrément on savait qu'il allait avoir des attentats, mais on n'a rien fait. Alors qu'il suffisait de fermer les frontières, et puis les attentats n'auraient pas eu. Quand vous avez perdu votre fille, et puis que vous entendez ça, c'est dur à avaler. Après, il y a eu un film qui est passé sur la 5, qu'on a beaucoup de mal à retrouver, parce que je pense que maintenant, il a été plus ou moins censuré, où à la suite de ce film, il y a eu un débat, ils ont interviewé M. Cazeneuve, qui lui a répondu simplement, « Vous savez, moi, 6 ans après, je ne me souviens plus, excusez-moi, mais suite à un attentat, quand on est ministre de l'Intérieur, à un attentat qui est le plus gros attentat depuis la guerre 40, qu'ils ne se souviennent plus, ça paraît un peu léger. » Et quant à M. Valls, il a dit « Oui, effectivement, il y a dû avoir des dysfonctionnements. » Je suis désolé, mais ces gens-là, ils sont élus, ils nous dirigent, et de par la Constitution, ils nous doivent la sécurité. Pour moi, ils ont failli, et à partir du moment où ils ont failli, ils devraient être punis.
C'est quelque chose qu'ont réclamé également une centaine de jeunes qui sont assemblés devant le tribunal au moment du procès de Lola qui avait lieu la semaine dernière. Donc justice soit faite, mais donc étendue effectivement aux responsables politiques, aux médias aussi qui ont tendance à modifier les informations, en tout cas à les présenter sous des angles complaisants ou à encourager tout ce qui participe à cette société chaotique dans laquelle les petites Lola sont torturées et dans laquelle votre fille Nathalie se retrouve assassinée au Bataclan. Quand on a des responsables politiques qui, suite à ce genre de moment, expliquent aux Français qu'il ne faut pas céder à la haine, justement, c'est parce qu'ils ont probablement bien conscience que si jamais on se laissait aller à des sentiments qui pourtant sont tout à fait instinctifs, naturels et surtout très légitimes, eh bien, les Français appelleraient à du changement et donc ils se retrouveraient en mauvaise posture politique. Patrick Jardin, vous êtes justement engagé en politique, c'est que vous avez quand même conscience qu'il y a une alternative possible. Donc, non seulement on a un personnel politique qui est responsable, mais vous pensez qu'on peut changer les choses et qu'on pourrait encore faire en sorte que ça aille mieux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre combat aujourd'hui ?
Je l'espère de tout cœur, parce que la France est dans un marasme épouvantable, que ce soit économique, au niveau de la sécurité, à tous les niveaux, la France dégringole. Et je pense qu'il est grand temps de mettre un coup de balai à tous ces gens qui nous dirigent depuis 45 ou 50 ans et qui ont montré et ont prouvé leur incompétence. Il est temps de les remplacer par des gens qui auront le courage de prendre les décisions, les bonnes décisions, pour qu'on n'en soit plus là, quoi.
Oui, par un personnel politique aussi qui serait peut-être plus décent, parce que quand vous nous parlez de ces gens qui nous expliquent qu'ils ne se souviennent plus de l'attentat, dont encore une fois ils sont en partie responsables, voilà, que c'était il y a longtemps, quand ils expliquent ça à la télévision, sachant très bien qu'il y aura probablement des victimes ou des familles de victimes qui verront ces mots, encore une fois, c'est d'une indécence crasse. Quand Raphaël Arnaud explique qu'il va désinguer de toute façon tous les fascistes en s'adressant à un père qui a perdu sa fille au Bataclan, c'est d'une indécence crasse. Aujourd'hui, on aimerait retrouver donc un peu de dignité au sein de ce personnel politique. Et puis, voilà, encore une fois, il y a une responsabilité médiatique dans les mots qu'on emploie.
Oui, non, mais vous savez, des gens inconscients, il y en aura toujours. Le malheur, c'est qu'il ne faut pas, dans ces cas-là, leur donner un mandat politique, parce que ça devient dangereux. Et Raphaël Arnaud, pour moi, ne mérite jamais d'être député à l'Assemblée nationale, jamais.
Son argument, à lui, souvent, comme beaucoup de personnalités de gauche, c'est l'humanisme. On va vous dire, Monsieur Jardin, il faut faire preuve d'humanisme, donc il ne faut pas céder à la haine. En réalité, j'imagine que vous vous interrogez, où est-ce qu'il est cet humanisme, justement, quand Raphaël Arnaud s'adresse à vous de la sorte sur X, où est-ce qu'il est cet humanisme quand on a des représentants politiques qui expliquent que de toute façon, le Bataclan, eux, ils s'en rappellent plus.
D'une part, et où est l'humanisme quand vous avez des types qui rentrent dans une salle de spectacle et qui tirent sur tout ce qui bouge ? Alors, c'est facile de dire aux autres, il faut faire preuve d'humanisme, mais vous savez, s'il n'y avait pas eu de victimes au Bataclan, j'en serais pas là, moi.
Ah, évidemment. Patrick Jardin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouvera dans quelques jours, puisqu'on va consacrer une émission, évidemment, à ces 10 ans des attentats du Bataclan, une émission d'hommage. Vous vous invitez à témoigner aussi. Je rappelle que vous êtes le papa de Nathalie, qui a été tuée donc le 13 novembre 2015 au Bataclan. On vous retrouvera donc dans quelques jours. Merci beaucoup d'accepter de prendre la parole, puisqu'on imagine que ça demande aussi beaucoup de courage. Je rappelle que vous êtes aussi auteur d'un livre, Pas devant les caméras. Donc, chers auditeurs, si vous ne l'aviez pas encore lu, eh bien, il est toujours temps de le faire. Patrick Jardin, merci beaucoup donc, pour tout ça, et je vous dis à très vite.
De rien, avec plaisir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'être avec nous ce matin. À 7h50, on retrouve Arthur de Vatrigan pour sa chronique. Et puis il discutera avec Vincent Coussedière, que nous recevons dès maintenant dans votre grand entretien.
Ligne droite. Le grand entretien.
Marine Le Pen peut-elle être la figure providentielle que la France attend ? Nous recevons Vincent Coussedière, agrégé de philosophie, professeur, candidat aux dernières législatives sous l'étiquette Rassemblement National, auteur de plusieurs essais politiques dont Éloge du populisme, et Marine Le Pen, comme je l'imaginais, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour Monsieur Coussedière, merci d'être avec nous, est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez aussi ?
On vous entend parfaitement. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Marine Le Pen peut-elle être la figure providentielle que la France attend ? L'objet de votre ouvrage, vous, c'est de dresser une sorte de portrait de Marine Le Pen, notamment à travers ses choix politiques. C'est un essai très agréable à lire, chers auditeurs, donc qui est divisé en plein de petits chapitres. Et je vous en donne quelques titres. C'est Marine Le Pen, comme je l'imagine, imaginez travailler à sa stratégie pour 2027 ou Marine Le Pen comment j'avais imaginé devenir députée de Marine Le Pen ça c'est le mauvais exemple. Comme je l'imaginais ne pas se faire happer par le parlementarisme. Vincent Coussedière, dans cet ouvrage, vous tentez de dépeindre donc le portrait de Marine Le Pen. On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de chapitres qui évoquent une certaine déception à son égard. Comment est-ce que vous positionnez vis-à-vis de la figure de Marine Le Pen aujourd'hui ?
Voilà, donc déjà merci de votre invitation. Hein. Je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure. Je me place un peu du point de vue finalement des Français, des citoyens qui ont voté Marine Le Pen. Et je pense qu'eux aussi imaginaient quelque chose ou imaginent encore quelque chose par rapport à cette figure politique. Déception, vous avez dit. Déception, peut-être le livre commence effectivement sur ce qui s'est passé le 31 octobre 2025, c'est-à-dire la décision qui rend Marine Le Pen inéligible avec exécution provisoire. Donc je pense que ça a été un choc pour beaucoup. Le livre part de ce fait et il essaie de... c'est un peu une petite uchronie, vous voyez, on revient en arrière et on se demande comment les choses auraient pu se dérouler peut-être un peu autrement qu'elles ne se déroulent aujourd'hui. Alors, déçu, oui et non, parce que Marine Le Pen se retrouve face à une tentative d'exécution politique par le juridique, hein, ce qu'on a déjà connu pour François Fillon. Je ne suis pas déçu parce qu'elle a face à elle un mur, hein, mais c'est la réaction. Je suis un petit peu déçu de la réaction, c'est-à-dire je me demande si le RN s'y attendait lui-même, si le RN avait préparé quelque chose par rapport à ça. J'ai l'impression que le RN était assez confiant sur nos institutions et ne pensait pas que les juges iraient jusqu'à l'exécution provisoire. Et donc, je développe une stratégie qui aurait peut-être pu être ou dû être la sienne, car je pense que tout s'est joué ce 31 octobre 2025, et j'ai tendance à penser que les carottes sont cuites pour Marine Le Pen.
Bon, alors on va essayer d'avancer, et peut-être que nous finirons quand même sur une note positive, chers auditeurs. Vous le dites effectivement, Vincent Coussedière, tout le procès avait été diligenté pour en arriver là, pour la stopper définitivement dans son ascension vers le pouvoir. Elle ne pouvait pas ne pas l'avoir anticipé et penser qu'il n'oserait pas. Je me trompais, il a paru au contraire que Marine Le Pen et ses équipes, ainsi que celle de Jordan Bardella, furent complètement déstabilisées par la décision judiciaire. Et effectivement, on sent que vous lui en voulez de cela. Alors, qu'est-ce que vous auriez préconisé, vous, à Marine Le Pen ? C'est vrai que c'est le genre d'événement qui arrive dans d'autres pays européens. Et on voit que généralement, les candidats qui sont visés par ce genre de manipulation politico-juridique se retrouvent généralement renforcés aux yeux du peuple. Et de ce fait, on a peut-être moins senti ça en France à l'égard de Marine Le Pen. Est-ce que vous estimez qu'elle aurait eu. Elle a manqué de jouer une carte ?
Ce que je développe dans le livre, oui, c'est que peut-être il aurait fallu jouer une autre stratégie, la stratégie du judoka. Hein, quand vous avez un choc, vous essayez d'utiliser cette force, ce choc, pour, si vous voulez, le renverser dans votre sens. Donc j'imagine un scénario, mais bon, on y reviendra. C'est pas non plus, je pense, l'essentiel du livre, mais j'imagine un scénario assez différent. J'imagine, si vous voulez, que Marine Le Pen aurait dû, être beaucoup plus dans une réaction beaucoup plus forte, qu'elle aurait dû peut-être quitter son poste de députée à l'Assemblée nationale. Alors les gens disent, oh là, mais quand même, députée, etc., présidente du groupe, ce serait très très grave de faire ça. Mais justement, c'est un choc, ce serait un contre-choc, si vous voulez, par rapport au choc initial, et en disant, eh bien, je me déclare candidate à la présidence de la République. Le soir même de la décision d'inéligibilité, elle est allée sur le plateau de TF1, et elle a dit, il y aura peut-être un petit chemin qui va être devant nous, etc. Et je pense que si elle avait fait cette stratégie un petit peu différente, elle aurait un peu renversé les choses. Je me consacre à la présidentielle, je me déclare candidate. Je me consacre aussi à l'appel en cassation et je renverse ainsi l'émotion médiatique, l'émotion populaire aussi, parce qu'il y a eu une véritable émotion, et je coupe court à tout le scénario qui ensuite s'est dessiné, c'est-à-dire éventuel plan B, Bardella, etc. Je pense que la campagne a été, dès ce moment-là, empoisonnée pour Marine Le Pen, et je pense qu'elle sera empoisonnée quoi qu'il se passe, même si par miracle, elle pouvait, si vous voulez, être habilitée à se présenter. De toute façon, si vous voulez, devant la cour d'appel, c'est, comment dire, l'exécution provisoire, mais le détournement de fonds publics, toutes ces questions, elles continueront à être utilisées par ses adversaires et elles continueront à empoisonner la campagne. Et si vous voulez être dans cette stratégie très respectueuse des institutions, très peu trumpienne, et en attendant sagement que les institutions lui donnent raison, on a vu déjà le recours devant le Conseil d'État qui a échoué, on a vu ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy, vraiment il n'y a aucune raison de penser, et je le regrette, que Marine Le Pen pourra finalement se présenter. Donc voilà, j'ai dessiné un autre scénario. Après, voilà, tout le monde pourra me reprocher que c'est peut-être idéaliste, impossible, etc. Mais ce n'est pas non plus l'essentiel du livre. L'essentiel du livre, c'est aussi une réflexion sur l'incarnation en politique, sur la figure qu'est Marine Le Pen et sur les espoirs qu'elle pouvait porter, parce que c'est une figure politique hors norme, si vous voulez, par rapport à la classe politique actuelle. Elle est hors norme par son histoire, par son tempérament, par son caractère, et je pense qu'elle était vraiment tout à fait faite pour incarner justement la fonction présidentielle et la question de l'autorité, qui pour moi est la question centrale. Hein, la question d'autorité en 2027, c'est la question centrale. Et je pense que là, nous avons peut-être assisté effectivement à une occasion manquée, hein, pour la France, pour les Français, d'avoir une figure remarquable qui puisse se présenter aux élections.
Vous, vous êtes beaucoup intéressé au populisme, Vincent Coussedière, et donc vous revenez évidemment sur le rapport de Marine Le Pen au peuple, qui aujourd'hui est unique dans cette classe politique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Et voilà, est-ce que selon vous, aujourd'hui, Marine Le Pen est quand même la meilleure incarnation de ce populisme, dans le sens positif du terme? Parce que, évidemment, il a souvent été détourné pour le rendre péjoratif, et je crois que vous défendez une autre perception.
Oui, tout à fait, vous avez raison de revenir à cette question du populisme, puisque, en fait, voilà, c'était mon premier essai paru en 2012, Éloge du populisme, où j'essaie de renverser un petit peu la conception courante du populisme, qui généralement consiste à dire, voilà, le populisme, c'est de la démagogie, hein, ce sont des gens qui parlent au nom du peuple, mais qui les manipulent, etc. Et moi, ce que j'ai appelé le populisme du peuple, c'est une situation beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde. C'est une crise du peuple lui-même. Ce que j'appelle le populisme du peuple, c'est le fait que les peuples, d'ailleurs, les peuples européens, les peuples des démocraties occidentales, se décomposent pour plusieurs raisons. Les différents, si vous voulez, les différents fils qui tissent un peuple, les mœurs, hein, donc se décomposent par le biais de l'immigration, un certain équilibre économique, un certain type d'égalité, sans être égalitariste, mais une certaine unité économique qui fonctionne. On voit aujourd'hui à quel point, avec la dette de l'État, toutes les capacités de redistribution ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Donc la question économique, la question des mœurs, et puis la question de l'État, la question de la souveraineté, c'est-à-dire... un peuple, il existe encore quand il a un État souverain qui est capable de le représenter. Donc j'essaie de montrer que le populisme, c'est une crise très profonde de décomposition des peuples par l'immigration, par l'économie, par la perte de souveraineté. Et je me posais déjà la question en 2012, qui pouvait incarner, si vous voulez, cet espoir des peuples, hein. Le populisme n'est pas contre les élites. Il cherche simplement des élites qui puissent non pas gouverner contre lui, mais gouverner, si vous voulez, à son service. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rapproché un petit peu hein, comme beaucoup de Français, si vous voulez, hein, parce que moi je suis un Français comme les autres, un citoyen comme les autres, je me suis un petit peu rapproché de Marine Le Pen et j'ai placé mes espoirs dans cette figure qui me semblait capable d'incarner justement ce populisme du peuple. Et dans une politique, bien sûr, hein, donc dans une politique très ferme par rapport à l'immigration, mais dans une politique aussi économique qui, sans être socialiste et étatiste, comme on lui en fait le reproche, est le souci aussi hein, d'une forme de justice et d'égalité économique minimale, voyez. Et puis aussi, bien sûr, la question du rapport à l'Europe. La question du rapport à l'Europe et la réaffirmation d'une souveraineté. Donc, j'ai pensé que Marine Le Pen était cette figure politique qui dressait dans son programme, si vous dans son projet, une certaine synthèse qui permettait au peuple français eh bien, de renaître, de connaître un sursaut. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis rapproché progressivement, que j'ai accepté d'être investi par le RN sans pour autant faire partie du RN aux législatives de 2024. Mais, voilà, comme beaucoup de Français, j'ai été extrêmement, inquiet de cette décision de justice qui la rend, donc, à mon avis, inéligible, hein, et ça ne s'arrangera pas. Et du coup, on est parti sur un plan B avec Jordan Bardella et avec peut-être aussi une réorientation politique du Rassemblement national qui n'est pas forcément la mienne, puisque je suis plutôt sur une ligne, on va dire, souverainiste, assez critique par rapport à l'Union européenne. Et la ligne populiste de Marine Le Pen, non pas ni droite ni gauche, mais un peu à la gaullienne. Hein, la France, ça n'est pas la gauche, ça n'est pas la droite, c'est la France, vous voyez. Et donc, j'étais très... très intéressé par cette figure de Marine Le Pen et je suis très inquiet de ce qui s'est passé le 31 octobre et des suites et des conséquences pour la réorientation du Rassemblement national derrière Jordan Bardella.
On sent aussi que vous regrettez que Marine Le Pen n'ait pas su trouver son propre style. Vous l'écrivez, hein, elle tente, vous parlez de cette façon qu'elle avait donc, de marcher dans la cour du Louvre, par exemple, en donnant l'impression qu'elle a le poids de l'histoire sur les épaules, qu'elle est rentrée...
Je parle de Macron. Hein, je parle de Macron qui, en 2017, traverse la cour du Louvre. Et je veux pointer par là toute la dimension de communication qu'on retrouve chez Emmanuel Macron. Mais je pense que le succès de Marine Le Pen auprès des Français... c'est que justement, elle n'est pas dans cette posture de communication.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle aurait tendance à l'adopter petit à petit ?
Pardon ?
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle a justement tendance à l'adopter petit à petit, et notamment dans cet élan de dédiabolisation et de normalisation qu'elle a tenté d'insuffler au Rassemblement national ?
Alors, elle-même, je dirais qu'elle l'adopte à minima. Par contre, je pense que Jordan Bardella est complètement de plein pied dans cette stratégie. Il est aussi d'une autre génération. Hein, c'est un homme politique très jeune, qui est de la génération des Attal et d'autres, et qui, lui, est de plein pied dans cette dimension, si vous voulez, de communication. Et je pense que le succès populaire que possédait Marine Le Pen auprès des Français, c'est justement de ne pas être totalement dans cette stratégie de communication. La dédiabolisation, Marine Le Pen l'a menée de manière légitime. Ça n'était d'ailleurs pas au départ une stratégie simplement médiatique. C'était des positions très précises qu'elle a prises par rapport à son père, si vous voulez, hein, sur la question de l'antisémitisme, sur la question... de la Shoah, elle a pris des positions fondamentales, voyez. Donc, ce n'était pas seulement une stratégie de communication, c'était une réorientation politique aussi du Rassemblement national. Ça, c'est beaucoup plus profond que de la communication. Mais, effectivement, elle se retrouve entraînée par, si vous voulez, cet événement, par le tandem qu'elle a voulu former avec Bardella en pensant qu'elle allait profiter de la popularité de Bardella. Je dirais que plus indirectement, elle se retrouve aussi effectivement un petit peu prise dans cette communication politique dont les Français en fait ont assez, qui ne les intéresse pas tant, sauf peut-être chez les jeunes. Mais tout l'intérêt de Marine Le Pen, justement, là où elle fait exception dans la classe politique actuelle, c'est qu'on sentait chez elle une méfiance et une conscience, si vous voulez, que les médias ne sont pas un filtre neutre, que voilà, passer sur des plateaux de télévision, c'est d'une certaine manière accepter un cadre, se soumettre. Je redonne la fameuse formule de McLuhan, le théoricien des médias canadien, the medium is the message. Vous voyez, voilà, c'est le cadre hein, qui fait le contenu. Hein, et Marine Le Pen avait une personnalité. Hein, elle ne se soumettait pas, comme je le dis en citant Guy Debord, au talon de fer du spectacle. Et c'est ça aussi que les gens attendent d'elle, ce côté disruptif dans le rapport aux médias, voire parfois pratiquer la politique de la chaise vide, ne pas y aller, etc. Et tout ça s'est cristallisé, j'en parle dans le livre, autour des fameux débats d'entre-deux-tours à la présidentielle.
Alors hein, justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce débat de 2017, puisque c'est un débat qui reste dans la mémoire de beaucoup de Français comme étant un fiasco. Quelle est votre analyse de ce moment, Vincent Coussedière ?
Si on reste, si vous voulez, bien sûr, dans le cadre et dans les règles actuelles, Marine Le Pen elle-même, je pense, en a convenu, on ne peut pas dire que le débat soit une réussite. Ceci dit, il faut quand même voir les positions qu'elle était aussi à l'époque censée défendre dans ce débat, puisqu'on était encore dans les positions d'une sortie de l'euro, hein, les positions du Frexit, de Florian Philippot. Et donc, de telles positions à défendre, il faut être extrêmement solide, il faut être extrêmement bien conseillé, il faut… donc là, à sa décharge, il y avait quand même déjà cette question. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond, le problème est beaucoup plus profond. Ce qu'il faudrait briser, mais ça c'est très difficile, c'est l'idée que tout le monde se fait maintenant, qui est devenue naturelle, que la présidentialité, que la capacité de gouverner un grand pays, de prendre des décisions avec autorité, avec responsabilité, c'est de penser que tout ça, si vous voulez, cette présidentialité, elle se prouve dans un débat où on va être le meilleur élève qui répond à toutes les questions d'un journaliste. Les gens trouvent ça naturel, mais cette histoire des débats télévisés a commencé avec Giscard d'Estaing, en 1974, si vous voulez. Hein. Et là, on est vraiment dans le pouvoir médiatique, parce que c'est la capacité de répondre, c'est un peu le grand oral de l'ENA, vous voyez, le grand oral de l'ENA, la capacité de répondre à toutes sortes de questions, hein, voilà, l'élève qui sait un peu tout, et c'est ça qui permettrait aux Français de juger de la présidentialité de quelqu'un. Je ne crois pas du tout. Et je crois que Marine Le Pen, si vous voulez, c'est pas ce jeu-là et cette stratégie qu'elle aurait dû jouer en 2017 et en 2022, elle aurait dû justement recentrer, mais ça se fait à l'avance, hein, ça se négocie entre les équipes du candidat et les médias. Et c'est là qu'il faut faire jouer le rapport de force politique, vous voyez ? Parce que les médias, ils le veulent, leur débat d'entre-deux-tours. Je vous rappelle que Jacques Chirac, en sens inverse, avait refusé un débat avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, je pense que les équipes de Marine Le Pen auraient dû faire jouer beaucoup plus une forme de rapport de force pour obtenir un débat qui soit véritablement centré sur les missions du président de la République. Alors qu'on s'est habitué à des débats, surtout avec Emmanuel Macron, qui est le premier de la classe, si vous voulez, pour en fait parler de tout, voilà, comme un énarque, si vous voulez, hein, de tout et de rien, sans que ça aille vraiment beaucoup plus loin derrière, mais ça impressionne, si vous voulez. Et donc, je pense que cette stratégie aurait dû être pensée, repensée du débat présidentiel et recentrée vraiment autour des fonctions du président de la République, régaliennes essentiellement, de projets collectifs, de grandes lignes, et non pas de rentrer dans les détails de chiffres qu'on ne maîtrise pas. Mais quel est le problème ? Quel est le problème de ne pas maîtriser tel ou tel chiffre ? Hein, c'est vraiment pas la question.
Marine Le Pen, on le voit, a quand même tenté, au fil des années, de démontrer que le Rassemblement National, c'était aussi justement un parti qui pouvait maîtriser les chiffres, qui avait un programme économique solide et crédible, puisque c'est longtemps ce qui était reproché au Rassemblement national de façon assez, assez facile. Et donc, elle a voulu tenter de séduire une classe intellectuelle qui, avant, se tenait loin du Rassemblement national. Vous, vous revenez aussi sur cette stratégie. Est-ce que vous considérez que ça a été une réussite ?
Alors, je ne remets pas du tout en cause le travail de professionnalisation politique du RN, hein, qui a été fait sous la houlette de Marine Le Pen. Je ne le remets pas en cause. C'est bien évidemment, gouverner, c'est faire émerger autour de soi des équipes professionnelles sur les questions budgétaires, sur les questions d'éducation, sur toutes les questions, bien évidemment. Simplement, ce que je dis, c'est que ce travail-là, à mon avis, a été en grande partie accompli. Et que le travail qui reste à faire, c'est le travail, si vous voulez, lié à nos institutions, lié à la fonction présidentielle et à ce que les Français attendent de cette fonction, c'est un travail, si vous voulez, vraiment de donner les grandes orientations et un projet, si vous voulez, mais un projet politique, pas un projet simplement technocratique, avec telle mesurette qui va améliorer à la marge tel problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les petites mesurettes techniques qui améliorent à la marge la vie des gens sont totalement insuffisantes. Et ce n'est pas du tout ce que les gens attendent. Les gens sont prêts à faire des efforts. Par exemple, prenons la question actuelle qui est celle du budget. Mais c'est incompréhensible. C'est absolument incompréhensible. Hein, on a inversé totalement d'ailleurs la logique de la Ve République, hein, avec un budget qui va être fait par le Parlement lui-même, sans qu'il y ait un grand projet d'orientation budgétaire articulé à un projet politique qui soit présenté. Le discours de politique générale de Le Cornu était complètement général, justement tellement général et vide, que ça ne donne pas un sens. Les Français sont prêts à faire des efforts dans plein de domaines, au niveau budgétaire, au niveau de l'éducation, dans plein de domaines, mais à condition qu'il y ait une ligne claire, un avenir, un espoir. Vous voyez ? Et je pense qu'on en est là. Je pense que la situation dans tous les domaines est tellement catastrophique que, si vous voulez, pour la rétablir, ce n'est pas simplement une technicité et une technocratie qui permettra de le faire. Parce qu'il faut aussi, comme on le dit souvent, vous savez, on parle maintenant de l'acceptabilité des lois, etc. Et donc, le travail politique, véritablement, c'est là qu'il faut le faire. Il faut entraîner les Français avec nous. Hein, le candidat à la future présidentielle doit entraîner les Français avec lui par un discours, si vous voulez, churchillien. C'est-à-dire pas leur raconter simplement que moi, le politique, j'ai les solutions techniques et vous, il n'y aura rien à faire pour vous. Vous voyez ? Il faut essayer de s'appuyer sur un peuple, sur tout ce peuple qui est déjà chez Marine Le Pen. Mais, si vous voulez, c'est pas vraiment ce que je vois se dessiner dans l'évolution actuelle du Rassemblement national et surtout dans le fait que Marine Le Pen se retrouve finalement, peut-être se retrouvera, je n'espère pas, en retrait par rapport à Jordan Bardella, plein de talent, qui a beaucoup de talent, c'est pas la question, mais qui est un homme politique, si vous voulez, très jeune, sans expérience, et je ne pense pas qu'il puisse porter cet espoir des Français qui leur donnera la force aussi d'affronter les réformes qui s'imposeront, mais pas seulement les réformes, hein, aussi la traversée d'événements à mon avis, qui seront parfois peut-être même violents si on veut redresser le pays.
Oui, je pense que les Français étaient quand même plus sensibles pour le moment, en tout cas au charisme de Marine Le Pen qu'est celui de Jordan Bardella.
Voilà, justement, vous avez prononcé le mot charisme. Vous avez prononcé le mot charisme.
Sur cette question du duo Bardella, il nous reste 1 minute 30 et ensuite on poursuivra jusqu'à 8h15, mais avec Arthur de Vatrigan, si vous le voulez bien, Vincent Coussedière. En 1 minute, sur ce duo Marine Le Pen-Bardella, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen s'est laissée enfermée ? Est-ce que, d'un autre côté, on ne peut pas lui reconnaître qu'aujourd'hui, c'est sa dernière solution face à l'inéligibilité ?
Disons, c'est la dernière solution pour le Rassemblement national. Peut-être, hein, en cas d'inéligibilité. J'ai un chapitre dans mon livre où je dis que je ne comprends pas très bien cet enfermement dans lequel elle s'est mise, à mon sens, si vous voulez, dans le duo Bardella, parce que ce duo a précédé l'inéligibilité, hein, puisque déjà au niveau des européennes. C'était déjà cette stratégie de Bardella, Premier ministre, hein, et du duo gagnant, etc. C'est quelque chose qui me semble assez étonnant. Je ne vois pas d'exemple dans les présidents de la Ve République qui aient joué une telle stratégie. Je pense que la question du Premier ministre, elle doit, comment dire, rester en suspens. Elle dépend du président de la République, hein, qu'il nommera qui il veut. Et je pense que Marine Le Pen aurait pu profiter de la popularité de Jordan Bardella sans jouer cette stratégie là du ticket gagnant, Premier ministre, etc. Du coup, elle lui a laissé prendre aussi une place et un ascendant dans le parti. Peut-être en laissant moins émerger d'autres figures, même à la limite de manière concurrentielle. Vous voyez, c'est le jeu politique, quoi. Donc, j'avoue que je n'ai pas trop compris cette stratégie, et je pense que maintenant elle se retourne un petit peu aussi contre Marine Le Pen, et en tout cas sur un certain marinisme, sur une certaine figure capable d'incarner ce que j'appelle le populisme du peuple. Et on voit que Jordan Bardella est beaucoup plus sensible à une stratégie de l'union des droites.
Merci beaucoup Vincent Coussedière d'être avec nous ce matin pour parler de Marine Le Pen et donc de votre ouvrage Marine Le Pen comme je l'imaginais aux éditions de la Nouvelle Librairie, chers auditeurs. On reste avec vous jusqu'à 8h15, mais avant cela, 10 minutes environ de chronique avec Arthur de Vatrigan qui ensuite donc clôturera cette discussion avec nous. Merci et à tout de suite Vincent Coussedière.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Arthur de Vatrigan.
Bonjour Lisbeth, vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Bah écoutez, je suis en vacances, donc c'est génial. C'est bien, ça offre une petite pause salutaire.
Ah oui.
Enfin salutaire, c'est un peu vite dit, parce qu'en fait quand on est en vacances, on dit bon, on va faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur, parce qu'on est rentré en septembre, les rentrées sont toujours chargées. Et en fait, je me suis dit, je vais condenser en une semaine ce qui s'est passé en 2 mois. Et j'ai appelé ça une petite semaine ordinaire à l'asile. Alors disons que ça a commencé dimanche. Là, place de la République, on a vu une centaine de péquenauds qui agitaient un drapeau français, en dégobillant le catéchisme gauchiste plus vite qu'un incontinent. Patriote de la diversité, qu'il disait, c'est beau comme la France, black, blanc, beurre, mais c'est aussi ringard. La diversité se révélant assez vaste, parce que c'était binationaux, des sons immigrés, LGBT et handicapés. Expliquait-il tout heureux de trouver une caméra qui s'occupait d'eux. Ensuite, le lendemain, lundi, le matin, on a Laurent Nunez, nouveau ministre de l'Intérieur, qui se pointe à la télé, qui dit « Ah, il y a 700 000 clandestins », sachant que la veille, il disait qu'il y en avait 200 000. Donc, en fait, il multipliait par 3 en même pas 48 heures, puis il bégaye, puis il s'embourbe. Il explique qu'on ne peut pas connaître le chiffre près, la preuve que les anciens ministres disent des chiffres différents, mais en fait, si, on peut le connaître, et lui, il est super fort, donc il connaît le chiffre très, très précis. Donc, on ne comprend rien, sinon qu'il prend les Français pour des buses. Et puis, le soir même, on voit Alain Juppé qui sort de sa réserve de retraité pour se faire clôter le crâne par le service public et pour pas très cher, parce qu'il fallait juste de foutre une claque à Bruno Retailleau. Mardi, on voit une berline noire qui sort, des pleureuses, des gyrophares. On se dit « Ah, un enterrement d'un chef d'État raté, c'est un ancien président de la République qui s'en va au Niouf. » Alors, certains jurent qu'il est innocent, alors qu'ils n'ont pas lu une ligne des 400 pages du jugement. D'autres osent carrément dire que c'est le nouveau Dreyfus. Alors, il est vrai qu'on n'a pas trouvé les bifetons libyens sous son plumard, mais je préciserai qu'on n'a pas trouvé Delphine Jubilard non plus. Ça n'a pas empêché son mari à partir en taule pour 30 ans. Nicolas n'a pas passé encore les portes de la santé qui prépare déjà la sortie. Moitié phénix, moitié dantès, moitié Jésus. Donc, fossoyeur hier, martyr aujourd'hui. Merci, madame le juge, pour l'exécution provisoire. Mercredi, Emmanuel Macron s'incline de nouveau devant les babouches de Théboune. C'est une passion française depuis 1962. Bolène Sansal croupit toujours en prison. Qu'importe, le plus important, c'est de rendre hommage aux terroristes du FLN. Et à hasard du calendrier, c'est le même jour que s'ouvre le procès du monstre qui a tué la petite Lola, une Algérienne venue d'ailleurs, flanquée d'un visa étudiant pour choper un CAP cuisine. Alors évidemment, elle est flanquée d'une OQTF, mais l'Algérie refuse de la récupérer. Par contre, ils veulent bien récupérer leurs OQTF espagnols, mais la France jamais, parce que leur poubelle s'appelle la France. Donc le monstre a commis un des crimes les plus ignobles des dernières décennies. Mais Gérald Darmanin, garde des Sceaux, se veut rassurant. On a besoin d'immigration, sinon qui va ramasser les pommes? C'est vrai qu'avant que la France devienne un aéroport, on ne ramassait pas nos pommes. Jeudi, au nom de la stabilité, c'est l'excuse bidon de la petite casse qui veut garder son strapontin, on discutait avec budget. Donc les retraites à 450 milliards dans le budget, là on n'y touche pas parce que les vieux, de toute façon, ils votent. En plus, ils votent en masse. Donc en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désindexer l'allocation adulte handicapé et on va fiscaliser les indemnités des cancéreux. C'est assez pratique parce qu'on risque pas les nœuds des tétraplégiques ni la manip des chauves avec la chimie en bandoulière. Au même moment, au Sénat, Gérard Larcher négocie avec Braun Pivet, calculette en main, et dis donc, Braun Pivet, l'euthanasie, on y retourne ou pas, parce que ça nous ferait quand même gagner quelques sous. Bon, bah, c'est vendu, mais ça arrivera en février, on verra si on sera encore en vie d'ici là. Et d'ailleurs, en parlant de sous, il y a une grenouille géante qui a débarqué place Vendôme à Paris. C'est une œuvre. On nous dit que c'est une œuvre. Bon, le temps est au blanchiment, évidemment, et puis à quelques pas de là, vous avez des records de transactions des œuvres, avec tous les guillemets que je mets, d'art contemporaine. Et ça bat tous les records, parce que justement, c'est l'absence de contenu qui permet à l'art contemporain d'être international, parce que bah, forcément, le vide, il s'importe, il s'installe et il se fond dans n'importe quel décor, que ce soit un penthouse new-yorkais, que ce soit un palais boursouflé d'un narcotrafiquant en Amérique latine, ou d'un baraque hyper connecté au jet-set, d'un jet-setter à Saint-Tropez, et puis même la maison qu'on appelle Élysée de Brigitte Macron. Mais il faut quand même croire que c'est de l'art, alors il faut lui donner une substance. Donc pour combler le vide, bah, on file un petit mode d'emploi hyper sophistiqué pour expliquer que bah, un étron scotché au mur ou une grenouille géante, c'est de l'art. Le bobo se félicite, le plouc gueule, bah, c'est bien la preuve que c'est un plouc et que eux sont des bobos. Vendredi, vous avez Jean-Philippe Tanguy et Sarah Knafo qui s'écharpent. Le premier accuse la seconde de lui piquer ses idées, on entend « oui, prême, c'est moi qui ai eu le truc en premier, tout ça ». C'est vrai que la France souffre d'une pénurie de gauchistes, alors le camp national bah, se crêpe le chignon, ou alors peut-être que Tanguy est juste de gauche finalement. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen refuse encore l'union des droites, souhaitée et réclamée par 88% de ses électeurs. Elle explique même dans une radio « en fait, je peux pas parce que j'ai un LFIS dans mon QG. Bah, moi, j'ai un chien qui aboie en anglais, c'est pas pour ça que je gueule le God Save the Queen sous la douche tous les matins. » Samedi, Bob Côté et Pabs et Zemmour publient leur bouquin. Alors enfin, un éclair d'intelligence à l'asile prouve que la France bouge encore sous la camisole. Alors le constat est partagé, c'est l'après que ça diverge, mais c'est déjà beaucoup, parce que penser, c'est quand même une gageure dans un pays qui délire. Dégager n'est pas la chose la plus complexe, c'est remplacer en revanche, là c'est une autre histoire. Donc du côté de Zemmour, bah, son entrée dans la vie politique avait fait oublier à certains qu'il était avant tout un intellectuel. Et dans un court essai médant, s'il appelle donc, au sursaut judéo-chrétien pour sauver notre civilisation des griffes de l'islam, un essai qui laisse nous dire que bah, sa culture, sa vivacité, son esprit de synthèse s'expriment quand même vachement mieux dans le débat d'idées que dans les arènes politiques. Paraît d'ailleurs qu'il sera bientôt l'invité de Restons Courtois, c'est une bonne nouvelle, on pourra s'écharper sur les solutions qui sont, à mon sens, en demi-teinte. Et du côté de Bob Côté et de Passe, bah, tous deux partagent le 100% du constat, mais encore une fois, bah, c'est sur l'après que ça se bastonne. L'un veut revenir à une démocratie libérale à l'ancienne, on appelle ça un conservateur. L'autre veut changer le système, on appelle ça un réactionnaire ou un contre-révolutionnaire. Bah, voilà de quoi donner des idées, s'empoigner et conspirer. Et puis la bonne nouvelle, bah, c'est qu'ils le font, et c'est dans le prochain numéro de l'Incorrect qui sortira la semaine prochaine. Parce qu'en fait, tout le monde se pose une seule et même question, comment renverser les élites qui nous gouvernent ?
Ouais, merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Et puis cette question-là, on va continuer à essayer d'y répondre avec Vincent Coussedière. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous ce matin. Nous sommes avec Arthur de Vatrigan, notre chroniqueur du jeudi, Vincent Coussedière, agrégé de philosophie, professeur, candidat aux dernières législatives sous l'étiquette RN, et donc qui publie récemment Marine Le Pen, comme je l'imaginais, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je vous le rappelle, la radio compte sur vous. Si cette émission vous plaît, si ce programme vous plaît en général, si la radio égaye vos matinées, eh bien, il faut nous donner, puisque nous avons 200 000 euros à trouver d'ici la fin d'année. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes des milliers à nous écouter chaque matin et tout au long de la journée. Donc si chacun d'entre vous nous donnait ne serait-ce qu'un euro, on serait sorti d'affaires. Évidemment, vous ne donnerez pas tous, donc merci aux plus généreux d'entre vous. Arnaud, comment les auditeurs peuvent-ils faire un don à la radio ?
Comme vous le disiez, Iselotte, nous comptons sur votre générosité qui peut se traduire par des dons en ligne, par exemple, sur soutenir.rc.fr. Ou bien adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, vous êtes 2% des auditeurs à nous suivre, à faire des dons à Radio Courtoisie. Imaginez ce qu'on pourrait faire si jamais vous étiez plus nombreux. En tout cas, si déjà on pouvait être plus de la moitié, ce serait génial. Merci d'avance, chers auditeurs. Et on poursuit avec Arthur de Vatrigan et Vincent Coussedière.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Merci d'être avec nous donc ce matin, messieurs. Arthur de Vatrigan, on s'interroge avec Vincent Coussedière. Marine Le Pen peut-elle être la figure providentielle que la France attend? Je pense que ce qui se dessine dans notre discussion, Vincent Coussedière, et à travers vos lignes, donc dans ce dernier livre que vous publiez, c'est qu'elle en a le potentiel, mais que pour le moment, en tout cas, elle ne l'a pas saisi. Arthur de Vatrigan, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il serait peut-être temps d'arrêter avec la figure providentielle. C'est quand même un mythe, une invention qu'on paye très très cher depuis De Gaulle. Le principe d'une figure providentielle, c'est justement qu'elle est providentielle et donc qu'elle est rare et que ce n'est pas dans une élection tous les 5 ans qu'elle a débarqué pour sauver la France. Et que d'ailleurs, ça ne se crée pas et, c'est, voilà, et généralement, on ne la voit pas venir. Donc non, qu'elle soit une figure providentielle, je ne crois pas que Marine Le Pen en soit une, mais je crois qu'aucun homme politique qu'on connaît actuellement, qui soit chef de parti, ou qui ambitionne de candidater à la présidentielle, qu'elle soit anticipée au 2027, en soit une. Faut arrêter avec la figure providentielle, c'est toujours déceptif. En revanche, quelle est une carte à jouer immense à condition que les juges, évidemment, lui permettent de se présenter, ça, c'est évident. C'est évident, il y a une vague qu'elle a construite, qu'elle porte et qu'elle a manœuvre plutôt pas trop mal depuis, on va dire, depuis 2012. On ne voit pas comment même une petite digue d'un nouveau front républicain qui se constituerait l'empêcherait de passer. Alors après, la politique française, c'est comme le foot. Il y a des règles, il y a 11 types qui jouent contre 11 types, mais en fait, on ne peut jamais envisager le scénario. C'est ce qui rend la politique française passionnante, agaçante et souvent déprimante. Mais c'est ainsi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne voit pas ce qui empêcherait, sinon un juge, évidemment, Marine Le Pen, de gagner. Après, la question, c'est gagner comment et gagner pour faire quoi.
Alors, Vincent Coussedière, gagner pour faire quoi, on va y revenir. Mais avant ça, la position d'Arthur de Vatrigan sur cette question de la figure providentielle, quel est votre avis?
Vous m'entendez?
Oui, parfaitement.
Alors oui, moi je ne suis pas du tout pour... Alors c'est rigolo parce que déjà dans Éloge du populisme, je parlais de la question des grands hommes dans l'histoire et on me dit toujours l'homme providentiel. Alors moi, l'homme providentiel, c'est jamais mon expression. Hein. La providence qui nous amènerait quelqu'un, c'est pas du tout ma position. Ma position, c'est que dans les grands contextes historiques, malheureusement, dans les situations de très grandes crises, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde de rétablir la situation. Et donc, qu'il y ait un besoin de grand homme, tout le monde le dit, Henri Guénaud, par exemple, souvent, hein, le regrette, etc. C'est un simple constat. Et puis, dans le livre, si vous voulez, je voudrais pas qu'on croie que mon livre est un appel à l'homme providentiel. Il y a un peu d'ironie dans mon livre, n'est-ce pas? Puisque, en fait, je me mets moi-même un peu, je me moque un petit peu aussi de moi-même, dans l'espoir qui a été le mien ou qui est encore le mien par rapport à Marine Le Pen et qui est celui de beaucoup de Français. Donc, Arthur de Vatrigan a raison, si vous voulez, de manière rationnelle, enfin, je dirais qu'il a assez raison, mais il y a un phénomène. C'est que, qu'ils le veuillent ou non, 12 millions ou plus de Français sont dans cette attente. Alors, je n'appellerai pas ça l'homme providentiel, mais je veux dire, ça, c'est un élément politique avec lequel il faut faire, si vous voulez. On ne peut pas, comme ça, dire, ben voilà, tout ça est irrationnel, et maintenant, il faut qu'on s'habitue à des démocraties comme les autres, et maintenant, c'est des partis... hein, qui vont régler les problèmes, etc. Ça fait partie des données, si vous voulez, politiques, que cette attente et cet espoir. Et mon livre, c'est une mise en abîme de cette attente et de cet espoir. Je ne fais pas le malin, vous voyez, Peggy disait, le peuple, c'est ceux qui ne font pas les malins. Donc moi, je ne fais pas le malin, parce que finalement, je suis comme ces 12 millions de Français, si vous voulez, qui, quelque part... pense qu'on a besoin quand même d'hommes d'État, ne disons pas de grands hommes. D'ailleurs, il y a des passages dans mon livre où je dis que mon livre n'est pas du tout de mettre Marine Le Pen au niveau d'un De Gaulle. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une place, qui est une place vide, et que cette place, il faut aussi être capable de l'occuper d'une manière ou d'une autre, qu'il y a une tradition française politique avec laquelle on ne va pas rompre du jour au lendemain, et que Marine Le Pen, à mon avis, était très bien placée, très très bien placée, hein, pour justement occuper cette place, mais sans prétendre prendre la place du général, ce qui serait absolument ridicule. Je suis assez d'accord avec le constat d'Arthur de Vatrigan, je suis assez d'accord. Mais la question, c'est que, si vous voulez, dans une France qui est celle qu'on connaît, qui est extrêmement divisée, morcelée, qui a un penchant pour la guerre civile, qu'on le veuille ou non, les figures d'autorité ont souvent été nécessaires pour sortir de ce genre de situation. Ensuite, il faut bien sûr lier ça à la question plus générale des élites. Et le RN a été incapable de faire émerger autour de lui des élites, si vous voulez. Voilà. Et du lien aux intellectuels, du lien à tout un monde. Et le RN a aussi, si vous voulez, une responsabilité là-dedans. Mais mon livre n'est pas du tout une espèce de, comment dire, de croyance dans l'homme providentiel.
Arthur de Vatrigan, vous entendez les mots de Vincent Coussedière. J'aimerais juste rebondir sur quelques mots qui peut-être vont nous écarter un peu du sujet. Quand il dit, voilà, il n'est pas question de prendre la place du général. Est-ce que, quand on dit qu'il voilà, il faut arrêter de croire à l'homme providentiel, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi arrêter d'agiter aux yeux des Français ce spectre du général de Gaulle? Je pense qu'il ne se passe pas une matinée sans qu'on en parle à notre antenne, mais en fait, dans tous les médias, généralement, aujourd'hui, on a l'impression que c'était le seul à avoir jamais vraiment correctement gouverner la France, que c'est le seul qui aurait jamais pu sauver la France de l'abîme dans lequel elle se dirige actuellement. Bon, le général de Gaulle n'est plus là, je pense qu'il a fait aussi certaines erreurs. Est-ce qu'on n'est pas empêtré dans cette figure et donc forcément une espèce d'attente assez irréaliste dans un truc qui finit par être même assez abstrait, Arthur de Vatrigan?
Oui, tout à fait, c'est quand même amusant de voir presque de l'extrême gauche au camp de, toutes les parties du camp national se réclamer de Gaulle, c'est quand même assez marrant. En disant je suis gaulliste, mais j'ai envie de dire gaulliste de quelle époque? De 45, de 52, de 58? Bon, c'est un peu grotesque. Et puis, toi, quand on commence à convoquer et le passé et des figures, c'est qu'on n'a rien à proposer. Alors, je rejoins ce qu'a dit Vincent Coudière, évidemment que les 12 millions d'électeurs de Marine Le Pen, c'est cette vague dont je parlais, une vague qui a été construite, qui a été manœuvrée depuis 2012 et qui fait que Marine Le Pen est évidemment dans la meilleure position pour pouvoir gouverner le pays et peut-être commencer à le sauver de la crise. Mais le pays a besoin d'un homme d'État qui accepte d'être impopulaire. Parce que les réformes qui sont nécessaires à la France pour sauver la France du toboggan, en tout cas pour permettre à la France de sauter du toboggan qui l'entraîne vers la mort, sont des réformes extrêmement impopulaires. Et je ne suis pas certain que Marine Le Pen ait envie d'être impopulaire, tout simplement par son histoire, parce que quand vous êtes fait insulter pendant 40 ans, qu'on vous a traîné dans la boue pendant 40 ans, ce qui explique aussi cette incapacité à nouer des alliances ou faire des coalitions, c'est parce que quand tout le monde vous trahit et tout le monde vous traîne dans la boue, c'est compliqué ensuite d'accepter de créer de nouer des alliances ou de créer des coalitions, parce que vous doutez en permanence que quelqu'un va vous planter un couteau dans le dos. Et donc, c'est l'histoire de Marine Le Pen qui, aujourd'hui, la donne candidate, en tout cas favorite pour la présidentielle, mais je pense aussi, c'est peut-être son défaut, parce que son histoire... Je ne suis pas certain, quoi, tous les coups qu'elle s'est pris dans la tronche et tous les efforts qu'elle a fait pour arriver là où elle en est aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elle acceptera de mener des réformes dont la France a besoin, parce que ces réformes vont la couvrir d'injures et vont la rendre très impopulaire. Et l'autre point qu'a soulevé Vincent Coudière, c'est évidemment les élites. Le seul parti aujourd'hui qui crée des élites, il n'y en a qu'un seul, il s'appelle la France Insoumise. C'est le seul parti politique, si vous regardez. Ils ont une politique d'enracinement, ils ont une politique avec une vision de la France intégrale, ils ont une institut de la Boétie qui fournit et des élites et un plan de bataille intellectuel. Les think tanks de droite, c'est juste des structures vides pour permettre à des gens de faire de l'argent. À aucun moment, sont la droite ou dans le cadre national, les structures sont faites pour former réellement des élites. Et en plus, pour former des élites, déjà, ça prend du temps. Et ensuite, il faut que le politique accepte d'être entouré d'élites.
Ouais.
Et quand vous avez un système très au sein du parti qui est encore plus pyramidal que le système français, et quand vous êtes entouré d'une cour qui passe votre temps à vous flatter en disant vous êtes la plus belle, vous êtes la plus grande, vous êtes la plus forte, bah c'est compliqué d'entendre des élites, qui, ou en tout cas catégorisées comme telles, qui vous disent oui, mais peut-être que là, ce n'est pas forcément le bon sujet, et puis là, ce n'est pas forcément la bonne orientation. Et là, ce que tu as dit, ce n'est pas forcément le bon vocabulaire. Et ça, je suis pas certain que dans le camp national, mais ça ne concerne pas que Marine Le Pen, évidemment, on soit prêt à en former et à accepter qu'elle soit là et à nous conseiller.
Vincent Coussedière, votre avis sur cette question ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Arthur de Vatrigan là, sur ce qu'il a dit sur la formation des élites, en tout cas des cadres, au niveau du NFP, hein, avec l'Institut, c'est la Boétie, je crois, le think tank. Et du coup, là-dessus, ils sont très forts. Et le RN, j'ai pu m'en apercevoir en étant candidat aux législatives, manque de cadres un peu formés pour tenir le choc dans des débats face à des cadres LFI qui, eux, idéologiquement, sont très structurés, très formés. Là-dessus, je suis absolument d'accord. Sur la question de Gaulle, alors il y a peut-être un malentendu. Hein. Moi, je suis pas du tout un gaulliste, hein. Et puis j'ai pas le discours encore une fois d'Henri Guénaud sur De Gaulle. Je dis simplement, la question c'est pas de se référer sans arrêt à De Gaulle. Moi aussi, ça me saoule. C'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas, si vous voulez, le lire, le comprendre et s'imiter secrètement dans sa pratique du pouvoir et des institutions. Vous savez, moi, je suis passé aussi par l'ENA à une époque de ma vie. Je pense qu'on pourrait bazarder, si vous voulez, tous les cours des énarques et leur faire lire les mémoires du général, Perfide, Tournou. Mais là, je veux dire, c'est vraiment dans l'utilisation des institutions, la manière de gouverner, la manière d'utiliser la parole, je veux dire, toutes choses qui, aujourd'hui, si vous voulez, sont totalement... absentes, qui sont voilà, on dit des choses qu'on est incapable de faire, on n'attend pas de parler avant d'être dans une situation qui fait que cette parole pourra avoir une efficacité. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que la figure de De Gaulle m'intéresse, pas dans le sens de quelqu'un qui aurait tout bien fait et qui serait un homme providentiel, vous voyez. Hein, et sur la question de la diplomatie aussi, sur la voilà, il y aurait tellement de choses en termes de formation qui seraient très importantes, vous voyez. Voilà, c'est comme ça que je me réfère à De Gaulle et bien sûr aussi à la question de la crise aussi, parce que je le répète, dans les temps de crise, les figures politiques nécessaires, ce sont pas les figures classiques de la démocratie représentative. Je suis désolé. Dire là aussi, De Gaulle, faut relire le fil de l'épée. Hein, je veux dire, dans les situations de crise, il y a les deux capacités. Il faut faire la synthèse entre la capacité de décision. Du militaire, si vous voulez, de courage, et la capacité du politique de rapport à l'opinion publique. Voilà. Donc, il faut réfléchir sur tout ça. Et je pense que, si vous voulez, notre personnel politique, à droite, etc., ou à gauche, mais est à des années-lumière de tout ça. Et j'ai, encore une fois, j'ai pensé que par son histoire, par son tempérament, par aussi le fait que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé qu'une seule fois, mais c'est quelqu'un qui parle peu. Vous voyez, ça, c'est une qualité aujourd'hui de ne pas beaucoup parler. Et j'ai pensé que Marine Le Pen, si vous voulez, avait des traits de caractère, de tempérament, une histoire. Vous savez, De Gaulle, il y a un moment où on lui dit « Est-ce que vous avez un programme ?» hein, en 53, je crois. Et il dit un programme, pour lui, c'est un prospectus. Il dit « Non, je n'ai pas un programme, j'ai un nom. » Le nom Le Pen est aussi un nom... qui bien sûr est une marque en même temps, qui empêche d'arriver au pouvoir, mais ça peut se renverser aussi. Hein, quelqu'un comme Jérôme Sainte-Marie l'a souvent souligné, que le nom Le Pen n'est pas simplement forcément un handicap, si vous voulez. Et j'insiste surtout dans les situations de crise. Je pense que la question fondamentale, c'est le diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes. Il faut accepter qu'historiquement, il y a des situations... Eh bien, dans lesquels il n'y a pas de sortie de crise sans qu'émerge véritablement du haut niveau.
Vous mentionnez Jérôme Sainte-Marie, j'en profite pour annoncer aux auditeurs qu'on le retrouvera demain au micro de Richard de Sèze. Merci beaucoup Vincent Coussedière d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur de Marine Le Pen, comme je l'imaginais, aux éditions de la Nouvelle Librairie. C'est préfacé par Alain de Benoît. Donc voilà, une analyse du personnage de Marine Le Pen. Merci Arthur de Vatrigan pour votre chronique. Et puis je pense que tout ce qu'on peut souhaiter aux Français, c'est que Marine Le Pen soit à la hauteur de leurs attentes. On verra ça. Merci à tous les deux et à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'être avec nous ce matin. Il est 8h15 dans quelques secondes. On retrouve Alice Cordier pour sa chronique et puis on se demandera comment cartographier les mots de la France. C'est avec Rémi, le fondateur de Ouvama France et Louis Rigaudière. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adèle Rosner.
La niche parlementaire du Rassemblement national se tient aujourd'hui au milieu des débats sur le budget. Ils vont mettre en place 7 propositions, dont les deux plus importantes concernent l'immigration. Et au Louvre, depuis 2021, 1 milliard d'euros ont été consacrés par l'Élysée et la présidente du musée à la création notamment d'une nouvelle entrée du public et à divers aménagements, alors même qu'ils savaient que les caméras et les ordinateurs de sécurité étaient vétustes. Et l'avocat Pierre Gentier sera bien maintenu dans ses fonctions de professeur à l'université de la Sorbonne où il enseigne le droit depuis maintenant 9 ans. Et nous fêtons aujourd'hui la bienheureuse bienvenue et la bienheureuse Dorothée.
Merci Adèle.
Ligne droite.
Et normalement on retrouve Alice Cordier mais qui n'est pas encore là. On espère qu'elle nous rejoindra, chers auditeurs, mais... Dans tous les cas, sinon Adèle va aller maintenant appeler notre prochaine invitée, donc pour essayer de le prendre en avance. On espère pouvoir commencer cet entretien donc avec Rémi, le fondateur de Ouvama France, qui s'appelle donc Ouvama France sur les réseaux sociaux, mais qui a maintenant un site internet qui s'appelle mafrance.app. Et nous allons en discuter avec Louis Rigaudière qui me rejoint en studio. Bonjour Louis.
Bonjour Liselotte. Voilà, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour
Alice
à tous.
Cordier semble nous faire faux bond. On espère que on réussira à la joindre. Et sinon, je suggérais que nous commencions à parler de ces cartes que nous propose Rémi et donc avec son compte Ouvama France. Est-ce que vous voulez commencer à nous en dire quelques mots ?
Non, mais ça va nous permettre d'en parler un petit peu plus longuement, hein, parce que ce site est quand même d'utilité publique, hein, il faut bien le dire. Alors, je vais lire mon introduction pour Rémi, parce que je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ce matin sont nombreux, et je suis également sûr qu'une part non négligeable d'entre eux ont eu des projets de déménagement, et j'imagine qu'ils se sont confrontés à une problématique que rencontrent généralement les patriotes, et vous savez sans doute déjà de quoi je veux parler. L'immigration et l'islamisation de la France changent la donne et nous obligent à prendre des précautions nouvelles et drastiques pour faire face à des désagréments qui pourraient très vite muter en cauchemar. Un site internet appelé mafrance.app a vu le jour récemment pour nous aider à éviter cette nouvelle France qu'on nous impose. Et nous avons donc l'honneur de recevoir son fondateur en direct. L'honneur car à ma connaissance, c'est son premier passage dans un média. Eh bien écoutez, alors Rémi, il est avec nous ce matin. Là, pour l'instant, je ne sais pas s'il est...
Je crois qu'il est avec nous par téléphone, n'est-ce
par téléphone.
Arnaud. Ah, Arnaud ? Ah ben Arnaud est en train de s'adresser à Rémi, donc je suppose
écoutez,
que c'est
qu'il nous
rejoint par téléphone. Chers auditeurs, c'est la chance que vous avez sur Radio Courtoisie d'assister aux aléas du direct et à la façon dont en équipe on résout les problèmes.
En tout cas, non mais c'est un site qui va vous permettre d'anticiper si jamais vous avez des projets de déménagement ou des projets de vacances ou partir pour être en toute tranquillité, parce que c'est vrai qu'évidemment il y a des données qui ne sont pas forcément trouvables facilement sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Notamment le nombre de centres pour migrants, les quartiers prioritaires, les mosquées, etc. Et Rémi nous a offert ces données-là.
On est avec lui par téléphone, on le retrouve dans quelques secondes, chers auditeurs.
Du lundi au vendredi, de 17h30 à 19h30, retrouvez Restons Courtois.
La bête de l'événement est là.
Restons Courtois, la nouvelle émission de débats pertinentes et impertinentes de Radio Courtoisie.
Non, 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 il faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non, 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 non.
Du lundi au vendredi, de 17h30 à 19h30. Restons Courtois, en partenariat avec Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et L'Incorrect.
Ligne droite, débattons-en.
Nous sommes donc avec vous, Louis Rigaudière, et Rémi, qui est avec nous par téléphone. Bonjour, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Merci beaucoup, et déjà merci donc, parce qu'on le disait aux auditeurs, c'est le premier entretien que vous offrez aux médias pour parler de votre projet, de ce site que vous avez lancé, mafrance.app, et donc de vos réseaux sociaux qui sont sous le nom de Où va ma France ? Donc merci pour ça.
Je vous en prie.
Alors, vous êtes, donc c'est votre premier média, hein, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, présenter votre site internet, mafrance.app ?
Tout à fait. Donc, c'est un site internet qui s'est construit petit à petit. C'est un projet qui s'est construit de zéro. Je n'avais pas d'expérience initialement. Et qui est venu d'une considération que... On voit des changements rapides en France. On voit que le tissu socioculturel français se change, se délite, se dégrade peut-être, de façon différente suivant les différentes régions ou les différentes communes. On en entend parler, mais je ne trouvais pas de site qui permette de le visualiser, de le quantifier. Et donc l'idée m'est venue de le réaliser moi-même, de récupérer tout un tas d'informations publiques, j'insiste bien là-dessus, publiques et officielles pour l'essentiel, et de construire une cartographie avec des indices qui permettent de quantifier, par exemple, la progression de l'immigration ou de l'islamisation sur les différentes parties du territoire.
Oui, d'accord, vous expliquez, vous intégrez énormément de données hein, sur votre site internet, et c'est vrai qu'il est extrêmement complet, mais justement, comment faites-vous concrètement pour engranger autant de chiffres, de graphiques, etc. Quelle est votre méthodologie, en clair ?
Dès que j'ai une idée d'une nouvelle métrique qui peut s'intégrer dans un des indices qui constituent la trame du site, un des cinq indices, on pourra en parler. Je la récupère, j'essaie de trouver la source officielle la plus claire et la plus sûre, en général issue de data.gouv.fr, donc c'est le portail officiel des données publiques de l'État français. Et j'y retrouve, par exemple, des informations de l'INSEE ou des informations du ministère de l'Intérieur sur la criminalité dans l'ensemble des communes françaises.
D'accord.
Donc, par exemple, pour la partie de l'INSEE, j'ai récupéré les informations du dernier recensement de l'INSEE qui a eu lieu il y a quelques années.
Ce qui est intéressant, Rémi, c'est que vous nous le dites, ces données, elles sont publiques, elles sont officielles, et vos cartes, elles, sont extrêmement claires. On met ça en parallèle avec nos politiciens qui souvent nous expliquent que c'est très difficile de quantifier le malaise français. On leur demande des chiffres sur l'immigration, ils n'en ont pas vraiment. On leur demande des chiffres sur les villes où, justement, ça fait baisser le prix de l'immobilier. Bon, ils ne savent pas vraiment, il y a peut-être d'autres critères. Vous démontrez aussi avec ces cartes que, sur le plan tout à fait officiel et mathématique, il est capable de rendre visuellement compte de ces mots français que nos politiciens eux-mêmes ont du mal, encore une fois, à déterminer et à quantifier. Ça met aussi un peu en lumière alors, soit leur incompétence, soit leur imposture.
Oui, effectivement, c'est quelque chose que le site peut permettre de faire. En tout cas, de donner une prise de conscience de ces éléments de ressenti. On parle par exemple souvent de ressenti, de sentiment d'insécurité. Sauf que les données du ministère de l'Intérieur sont publiques et pour l'ensemble des communes de France. Donc ce sentiment, il est finalement assez numérique et il est transcrible de manière numérique. Et donc j'ai créé un indice d'insécurité qui permet avec une matrice de pondération qui est la même sur l'ensemble de la France à tous les niveaux, à la fois au niveau communal, départemental et au niveau de la France métropolitaine et même de la France entière avec les DOM, la même matrice de pondération, des éléments des statistiques de criminalité issues du ministère de l'Intérieur permet de créer un indice d'insécurité et donc de comparer sur la même base l'ensemble des différents éléments du territoire.
Et donc, alors, sur les réseaux sociaux, vous vous appelez Où va ma France, mais vous confirmez bien que vous avez changé en mafrance.app pour le retrouver, votre site.
Alors, effectivement, j'ai pris un nom de domaine un peu plus simple, de manière à ce que ce soit plus facilement accessible sur Internet. J'ai gardé les deux noms, en réalité. Un nom plus neutre, on va dire dans la version standard du site, qui est « Ma France, état des lieux », donc « mafrance.app ». Et le nom « Où va ma France », qui était un peu le nom d'origine, est toujours accessible dans une version un peu plus identitaire du site. J'ai également fait une troisième version du site, progressiste, qui permet peut-être de donner des lunettes un peu différentes sur la présentation des données. Les données et le contenu du site sont les mêmes, mais uniquement la présentation change légèrement pour s'adapter à ces versions.
Oui, donc on imagine que vous avez envie quand même de rayonner et de toucher un maximum de Français pour qu'ils réalisent la situation de la France, en tout cas pour que ceux qui n'en auraient pas encore conscience puissent la découvrir. Dans les indices que vous avez mis, que vous avez réussi à mettre en place, Rémi, il y a cet indice d'insécurité, il y a aussi l'indice par exemple de progression de l'islam ou de changement culturel. Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir justement quantifier tout ça, alors que là encore, on pourrait se dire que l'indice de changement culturel, il peut y avoir quelque chose de très émotionnel, personnel, en tout cas d'assez difficilement palpable. Comment est-ce que vous quantifiez tout cela ?
Alors, d'une manière générale, il faut bien considérer qu'on a 35 000 communes en France, une centaine de départements. Donc les données ne sont évidemment pas manuelles pour l'ensemble des communes. Pour l'indice de changement culturel, que j'appelle aussi défrancisation dans une autre version du site, j'ai pris l'information sur le pourcentage de prénoms de naissance français, qui est encore une fois une donnée publique. La quantité de prénoms que j'ai pu quantifier par rapport à l'origine culturelle des prénoms, ainsi que le pourcentage de population française de naissance, qui était également une donnée publique.
Oui, puisque faut quand même préciser qu'il y a des graphiques assez effrayants, notamment sur l'évolution des prénoms qu'on donne depuis les années, depuis le siècle dernier, depuis 1900, et c'est assez c'est déroutant hein, parce qu'on voit les prénoms d'origine française de souche s'effondrer littéralement tout au long du XXe siècle et au début des années 2000 pour laisser place à des prénoms plus exotiques, plus orientaux. C'est assez musulman. Inquiétant tout ça, musulman évidemment, asiatique. Quelle a été ma question que je me pose, quel a été votre déclic pour créer finalement ce site internet ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez « je vais créer mafrance.app »
C'est pas évident. Je pense qu'un des besoins principaux que je ressentais, c'était que dans des discussions personnelles, on se conseille, on se met en garde assez fréquemment assez facilement sur les communes qui sont encore françaises ou les endroits ou les quartiers à éviter. Mais c'est quelque chose qui se fait uniquement au point de vue personnel. Je ne voyais pas de site qui permette de le quantifier et de le partager de manière plus large que simplement au niveau personnel.
Et sur un positionnement un peu plus concret, je me mets à la place d'un auditeur qui souhaiterait déménager, qui souhaiterait un petit peu changer de vie. Concrètement, comment ça se passerait sur votre site internet ? Quelles seront les données à regarder en premier pour sélectionner un nouveau lieu de logement ou autre ?
Où élever ses enfants.
Exactement.
Effectivement, c'est plusieurs utilisateurs l'utilisent de cette manière. Sur le site internet, la page principale est focalisée sur les indices et sur une carte colorée donc qui permet de choisir en fonction de l'ensemble des métriques du site la colorisation de la carte et donc visuellement de repérer un peu les différents endroits, à la fois au niveau départemental et au niveau communal si on clique sur l'un des départements. Mais il y a également d'autres outils dans le site qui peuvent être utiles, accessibles dans le menu. Donc un classement qui permet sur l'ensemble des métriques de classer les départements ou les communes de France Par exemple, si on s'intéresse à une métrique en particulier, de sélectionner les 10 meilleures ou les 10 plus mauvaises villes de plus de, mettons, 35 000 habitants sur une métrique donnée, ça peut aider à faire un choix. Et un outil supplémentaire qui s'appelle localisation. Donc, on retombe sur une carte, encore une fois, mais un peu différente. Cette fois-ci, pas de couleur, mais on voit les points de localisation des différents points d'intérêt, on va dire, notamment les QPV, c'est-à-dire les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers, entre guillemets, je vous laisse compléter avec votre expression préférée, les centres de migrants et les mosquées. Donc ça peut donner un indice. Et si on zoome suffisamment sur une commune, on peut avoir accès également au prix de l'immobilier qui s'affiche. Donc ça peut permettre, même à l'intérieur d'une commune, de repérer les endroits qui sont plus ou moins proches ou éloignés de ces lieux d'intérêt, comme on le souhaite. Si on clique sur la carte, on peut même voir la distance à ces lieux d'intérêt les plus proches.
Avec votre travail, Rémi, vous balayez littéralement un énorme tabou qu'il y a en France sur les médias et dans le monde politique. C'est le rapport entre immigration, islamisation et insécurité. Vous faites le lien direct, vous ne vous en cachez pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les Français sont prêts à cela ? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un constat qu'ils font déjà et qui n'est juste pas encore suffisamment verbalisé, toléré justement dans ces sphères politiques et médiatiques ? Enfin, comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question ? Est-ce que vous ne craignez pas d'ailleurs d'être attaqué là-dessus ?
Alors, je ne sais pas le lien directement, étant donné que toutes les métriques sont indépendantes. Par contre, un outil du site qui s'appelle Corrélation permet de faire un lien statistique de corrélation.
C'est mathématique.
Mathématique, absolument. Et de voir entre différentes métriques s'il existe un lien de corrélation, en sachant bien évidemment que corrélation n'implique pas causalité. Donc je me garde bien de toute hypothèse de causalité. Mais une corrélation statistique peut être visualisée sur le site.
Oui, c'est vrai que vous avez illustré de nombreuses cartes de France. Y en a une qui m'a quand même beaucoup marqué. Alors, vous avez les fameux QPV, où là, c'est très localisé sur le territoire. Les mosquées, c'est simple, il y en a partout. Et les centres pour migrants, c'est encore pire. Et d'ailleurs, vous avez fait un tweet hier, si je ne m'abuse, assez effrayant, sur les différents types de centres pour migrants, les CADA, les MNA, les CAES, etc., etc. Et vous vous êtes rendu compte que vous faisiez face à un véritable millefeuille migratoire. Expliquez-nous ça.
Effectivement, donc en rentrant un peu plus dans le détail du sujet, je prends connaissance de la complexité de ce sujet et je suis assez abasourdi. La liste des centres qui est présente sur le site est pour l'essentiel issue des données de public, encore une fois de la CIMAD, mais elle ne recense que les IDA, les hébergements d'urgence de demandeurs d'asile, les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CAES, centres d'accueil et d'examen de situation, les CPH, centres provisoires d'hébergement, et les PRADA, les places pour réfugiés et apatrides handicapés ou déficients avancés. Et en creusant un peu plus, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres centres qui ont des acronymes différents, qui ne sont pas pris en compte encore dans mon site, mais qui le seront prochainement, je vous rassure. C'est-à-dire les MECS, les MNA, les CAO, les ASAGI, les CHU, les SAMNA, les CHUM, les ATSA, les départs, je ne vous fais pas la liste complète, il y en a encore une quinzaine.
Non mais c'est effrayant et c'est un travail de veille perpétuel en fait. Vous regardez perpétuellement les nouveaux centres pour migrants, etc. Vous devez vous tenir informé tout le temps pour pouvoir mettre à jour votre site internet.
Alors non, pas encore. Pour le moment, l'essentiel des données du site sont issues de bases que j'ai récupérées sur Internet. Mais évidemment, ces bases sont incomplètes, donc un travail de veille va devenir nécessaire pour les compléter.
D'accord. Et pour illustrer un petit peu la carte de France qui arrive en premier sur votre site Internet, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les régions ou les villes qui ressortent comme les plus préservées et à l'inverse, celles qui sont les plus touchées ? par ces problématiques qu'on évoque depuis, depuis 10 minutes.
Tout à fait. Donc, quand on arrive sur le site Internet, la carte est par défaut fixée sur la métrique qui s'appelle l'indice de changement général, qui est en réalité la moyenne simple entre les 5 principaux indices qui constituent le site, c'est-à-dire l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, la défrancisation et le wokisme. Donc c'est une moyenne de l'ensemble de ces métriques et de ces changements. Ça constitue, on va dire, la métrique qui illustre le mieux les changements généraux de la France. Et évidemment, ce qui ressort en premier, c'est Paris et l'Île-de-France, et notamment la Seine-Saint-Denis, sans aucune surprise. Avec également des foyers rouges assez importants sur les Bouches-du-Rhône, et sur le Nord.
Et j'avais vu que la ville de Calais était particulièrement touchée aussi.
Pardon ?
J'avais vu que la ville de Calais est particulièrement touchée aussi. Elle arrive en tête du classement également.
Alors oui, si on zoome sur... Il faut quelques pics pour arriver à ça, mais on peut voir, d'une manière générale, les grandes villes sont beaucoup plus touchées que la campagne. Mmh. Ça se ressent sur les statistiques de criminalité, par exemple. On peut voir que les statistiques sont toujours plus mauvaises pour les grandes villes que pour les petites ou pour les villages. Le site permet d'ailleurs de comparer sur des graphiques, quand on sélectionne une ville, de comparer les statistiques de criminalité sur les 8 dernières années entre la ville, son département et la moyenne française.
Est-ce que vous n'avez pas peur, Rémi, avec ce genre de carte, évidemment de conseiller les Français, mais presque de trop bien les conseiller, et donc d'accentuer cette fracture entre des territoires qui vont devenir des refuges pour les Français qui ont besoin, et on le comprend, de zones où éduquer leurs enfants sereinement, voilà, où ils pourront sortir dans la rue sans avoir peur, et en même temps donc rendre les quartiers et les villes, les régions qui pouvaient déjà être assez compliquées, et bien encore plus différentes justement du reste de la France. Est-ce qu'on ne va pas accentuer cette fracture? Est-ce que ce n'est pas une certaine façon donner la possibilité aux Français d'abandonner ces zones-là plutôt que de continuer à vouloir les investir et peut-être réussir à les sauver?
C'est une bonne question. Je pense que dans tous les cas de figure que l'information est toujours meilleure, est toujours préférable à la non-information. Et je pense également que les Français ont deux possibilités pour voter. Une première avec leur bulletin de vote lors des prochaines élections municipales. Et j'espère que mon site pourra contribuer à une prise de conscience. Et la deuxième manière de voter, c'est avec leurs pieds. Et je pense que c'est une manière particulièrement efficace pour inciter les personnes en responsabilité. D'ailleurs, sur le site, je liste ces personnes, c'est-à-dire les maires au niveau communal, les préfets et le ministre de l'Intérieur, à agir pour éviter que la situation se dégrade.
Et vous mettez également sur votre site la couleur politique des maires, évidemment, vous venez de l'évoquer. Mais est-ce qu'on peut clairement établir une corrélation entre ces problèmes de démographie, d'islamisation, d'immigration et la couleur politique du maire en question? On pourrait penser que oui, mais est-ce vraiment le cas?
Effectivement, je m'étais posé la question. Donc j'ai fait un outil qui s'appelle Politique, qui permet de visualiser pour l'ensemble des métriques la moyenne pour les communes en fonction de la couleur politique du maire, ce qui permet de visualiser ces résultats. L'interprétation des résultats, je la laisse aux visiteurs.
D'accord, très bien. Et alors, est-ce que vous prévoyez d'ajouter, parce que je crois que votre site est en perpétuelle évolution, est-ce que vous prévoyez là, dans le futur proche, mettre de nouvelles fonctionnalités qui permettraient d'avoir de nouveaux angles de vue pour le territoire?
Bien sûr, je suis toujours preneur de nouvelles métriques, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles manières de présenter l'information. J'ai une belle quantité d'idées que je souhaite mettre en place. Donc c'est une certitude que le site sera amené à évoluer encore.
Vous, vous reliez une partie, enfin, il y a une partie du site qui est dédiée à des articles de F de Souche, si je ne m'abuse, et c'est une façon pour vous de d'accentuer encore un peu plus la légitimité de tous ces graphiques et de tous les chiffres que vous présentez, puisqu'effectivement, il y a une corrélation entre les, on appelle encore des faits divers, mais qui encore une fois s'inscrivent en réalité dans des questions de société bien plus importantes, et on n'est plus dans du simple fait divers, mais voilà, des tentatives d'attentats, des agressions au couteau, et donc il y a cette façon de rendre très réel en même temps et d'inscrire dans le concret et dans le quotidien des gens tous ces chiffres qui pourraient peut-être aux yeux de certains paraître abstraits, même si encore une fois il y a rarement plus concret que des chiffres.
Effectivement, c'est un des travaux que j'ai réalisé en premier sur le site, c'est-à-dire une catégorisation sur ces cinq métriques de l'ensemble des 65 000 articles F de Souche. Une localisation de ces articles sur l'ensemble des villes et des départements de France, autant que possible. Et donc, ça permet de récupérer, quand on sélectionne un lieu, un département ou une commune, de récupérer l'ensemble des articles F de Souche qui ont été écrits depuis 20 ans sur cette commune, et d'en observer les catégories, la relation avec les indices. Et ces articles de souche nourrissent également, dans une certaine mesure, dans une petite mesure, la construction de ces indices.
Et alors, avec toutes ces données, est-ce que vous avez accès également à la fréquentation de votre site ? J'imagine que oui. Est-ce que votre site rencontre un succès croissant depuis sa création ?
Alors, croissant, oui. Il reste encore relativement confidentiel, je pense, par rapport au potentiel qu'il pourrait avoir. Mais à l'heure actuelle, je suis sur, on va dire, 1500 visiteurs par jour.
Bah c'est déjà tout à fait honorable.
Non, mais ce qui est bien, oui, bien sûr. Parce qu'avant, il faut vraiment s'imaginer qu'avant, il y avait des sites, certains sites que vous connaissez peut-être, qui recensaient également le ressenti des habitants de telle ou telle ville pour essayer d'anticiper un petit peu. Mais c'était très politiquement correct sur la propreté, l'environnement, etc. On ne rentrait pas dans les détails comme le fait Rémi. Et justement, alors il y a peut-être une idée, pourquoi pas de nouvelles fonctionnalités. Il y avait tout simplement des commentaires de gens qui avaient déménagé ou qui habitaient dans ces zones, et on pouvait voir, on pouvait lire les témoignages de gens qui vivent dans des zones en question depuis peu de temps ou depuis longtemps, et ça permettait d'avoir un aperçu pour une personne qui anticipait un déménagement potentiel. Alors peut-être éventuellement, pourquoi pas dans mafrance.app, Rémi ?
Oui, tout à fait, ça fait partie de mes idées que j'aimerais bien mettre en place, permettre aux utilisateurs de noter eux-mêmes les endroits et également de descendre au niveau des quartiers.
Je pense qu'en tout cas, on peut vous remercier parce que ça fait énormément de bien, à mon avis, à beaucoup de Français qui tombent sur votre site, de réaliser que voilà, on leur explique toute la journée que cette insécurité qu'ils ressentent, eh bien, effectivement, ce n'est que de l'ordre du sentiment, qu'ils sont perdus dans des fantasmes d'extrême droite. Et ça vient, je pense, les conforter justement dans ce qu'ils sont, dans le quotidien qu'ils vivent. Et avoir cette légitimité des chiffres, même si on ne l'a pas attendu, évidemment, pour partager notre avis et puis se sentir quand même assez sain d'esprit de pouvoir ressentir tout ça, eh bien, ça donne une certaine légitimité qui doit faire beaucoup de bien. Et puis j'imagine que c'est aussi un peu dans cet objectif-là que vous avez monté Où va ma France ?
Oui, tout à fait. Et je reçois sur X énormément de messages de soutien. Qui me font extrêmement plaisir.
Voilà, donc oui. Nous aussi on vous remercie, et voilà. Chers auditeurs, encore une fois, on en a certains qui en direct se connectent sur votre site pour le découvrir et qui disent que c'est une superbe idée, donc on vous remercie au nom des auditeurs de Radio
Courtoisie. On rappelle le site, mafrance.app, et alors on peut vous retrouver sur X, je crois que vous n'êtes que sur X d'ailleurs, ou c'est Où va ma France ?
Donc
vraiment, allez soutenir ce travail, regardez ces informations, voilà, pour vous donner encore une idée du détail que représente ce site. Vous avez même mis les données de subventions publiques aux associations par les différents ministères ou autres organismes. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point sur ce site, on rentre absolument dans tous les détails qui vous permettent d'anticiper à un potentiel déménagement. Donc allez-y, mafrance.app.
De bonnes bases de repli, mais aussi, chers auditeurs, donc en voyant les zones les plus touchées par tous les maux de la France, immigration, islamisation, wokisme, eh bien ça vous donnera aussi une idée des zones où il y a des combats à mener. Et pour les plus courageux, les plus tenaces d'entre vous, eh bien... au travail. Merci beaucoup, Rémi, pour votre travail. Donc, encore une fois, on le rappelle, le site s'appelle mafrance.app et les auditeurs peuvent aussi vous suivre sur les réseaux sociaux Où va ma France. Bon courage pour la suite. Et puis, on vous dit à très bientôt. Encore merci de nous avoir livré ce premier entretien exclusif.
Merci, Rémi.